Alors ce soir, nous clôturons ce séminaire autour de l'énoncé « Rien ne se perd, oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » de Lavoisier. Et vous pouvez écouter donc toutes les rencontres précédentes sur notre site. Vous pouvez également les télécharger. Je remercie Roland Gauré d'être avec nous ce soir. Roland Gauré, vous êtes psychanalyste à Marseille et professeur de psychologie et de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille 1. Vous êtes avec Stéphane Chédry, l'un des initiateurs de l'Appel des Appels. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de psychanalyse, dont le dernier, De quoi la psychanalyse est-elle le nom, est paru aux éditions de Noël en 2010. Où il est bien sûr question de psychanalyse, mais pas uniquement. Vous montrez en quoi le sujet de la psychanalyse est le sujet de la démocratie et comment les décompositions et recompositions des sensibilités et des subjectivités dans le champ social et politique affectent non seulement le sujet, mais porte également atteinte au fonctionnement même de la démocratie. Aussi, vous nous proposez ce soir de partir de la question posée par votre livre, De quoi la psychanalyse est-elle le nom ? Démocratie et subjectivité. Je vous laisse la parole.
Eh bien, merci Annie Agopian, merci de cette invitation. Alors finalement, bien sûr, on va essayer de répondre un tout petit peu à la question de quoi la psychanalyse est-elle le nom. Mais si vous êtes d'accord, j'aurais aimé peut-être dire quelques mots d'où vient le livre. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai commis un certain nombre d'ouvrages, aussi bien sur l'épistémologie de la psychanalyse, sur la question de la causalité en psychanalyse, sur la logique des passions... sur l'acte de parole, enfin, etc. Et puis là, finalement, c'est d'ailleurs un livre qui s'intitulait au départ « Démocratie et subjectivité » et qui avait en sous-titre « De quoi la psychanalyse est-elle le nom ?» Et pour ne rien vous cacher, puisqu'on est en comité restreint, pour ne rien vous cacher, c'est l'éditeur qui a un peu proposé l'inversion, c'est-à-dire de... C'était au moment de l'affaire Onfray, donc il y avait une certaine turbulence médiatique pour aller vite, et l'éditeur a pensé que c'était bien de partir de quoi la psychanalyse était le nom, de mettre démocratie et subjectivité en sous-titre. J'ai d'abord été un peu réticent, et puis il m'a rappelé très pertinemment, c'est un bon éditeur, et puis c'est un éditeur qui n'édite pas seulement, mais qui lit, ce qui est quand même de plus en plus, comme vous le savez, rare. Il m'a rappelé, parce que moi je ne voulais pas donner dans le Badiou de quoi Sarkozy était le nom, mais il m'a rappelé qu'effectivement, le premier qui avait employé un peu cette tournure, c'était Nietzsche. De quoi le christianisme est-il le nom ? Et du coup, c'est un peu ce qui m'a amené à me caler sur ce titre-là. Alors... Pour aller très vite, je dirais que le livre a finalement deux sources. La première source, finalement, c'est la poursuite d'un certain nombre de recherches sur l'épistémologie de la psychanalyse. Alors, c'est un gros mot, l'épistémologie de la psychanalyse, mais ça veut dire tout simplement à quelles conditions la psychanalyse, ses énoncés, son savoir et ses pratiques sont valables. On a des témoignages là récents qui montrent que on peut s'amuser à faire une lecture psychanalytique de tels faits divers, de tels comportements, de tels personnages politiques, etc. Ça n'est pas sérieux. Et ça a été justement une des idéologisations de la psychanalyse qui finalement l'a certainement destituée dans sa valeur de connaissance. C'est aussi la poursuite de travaux sur, pour le dire très simplement, sur la psychiatrie, sur la psychologie clinique, sur la psychopathologie, c'est-à-dire non pas considérer la... envisager d'une certaine façon que chaque société a finalement un peu la pathologie qu'elle mérite pour aller vite et se fabrique la psychiatrie qui lui convient. C'est-à-dire pour essayer de dire que finalement, la psychiatrie, comme disait Michel Foucault, le philosophe Michel Foucault, est un fait de civilisation. C'est-à-dire que les concepts, les notions, si vous voulez, les méthodes ont une histoire. Et que cette histoire, elle montre justement que la façon dont on va traiter la folie à une époque donnée, dans une société donnée, pas seulement la folie, mais aussi l'angoisse, mais aussi les souffrances psychiques, eh bien, c'est cette manière-là, elle est symptomatique de la culture. Elle est la façon dont une culture accueille justement la vulnérabilité de l'humain, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'humanité dans l'homme, pour parler un peu comme un art. Donc, c'est un peu la poursuite de ces travaux-là. C'est aussi toute une série. Enfin, c'est vraiment les deux, hein, les deux sources. Mais cette première source, cette première racine est là, c'est-à-dire essayer d'interroger les dispositifs de diagnostic et de traitement psychiatrique et psychologique du point de vue social, et notamment de montrer comment, d'une certaine manière, par exemple, la psychologie, elle est venue à un moment donné naître, pourrait-on dire, dans la logique et la suite d'une médicalisation de l'existence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une crise de l'autorité qui fait qu'on ne détient pas une autorité en fonction de valeurs religieuses, ou en fonction de valeurs politiques, ou de valeurs idéologiques, ou de valeurs morales. Dans la modernité, c'est plutôt du côté des sciences que le pouvoir politique va chercher sa légitimité. Et donc, il va chercher sa légitimité. C'est un peu la fin des grands récits, hein, c'est un peu la fin des grands messages, et il va chercher sa légitimité du coup du côté des sciences, et en particulier des sciences du vivant et de la médecine, pour finalement dire aux individus, aux populations, comment ils doivent se comporter pour bien se porter. Donc, entre guillemets, cette médicalisation de l'existence, elle est finalement une pratique qui donne de pouvoir, qui donne une légitimité au pouvoir. Donc, je fais très vite sur cette première racine-là, c'est-à-dire que c'est un ensemble de travaux de recherche que j'ai menés pour montrer que dans notre société, qui est davantage une société de la norme qu'une société de la loi, finalement, on normalise les comportements au nom de la santé publique, au nom de la prévention. On y reviendra tout à l'heure, je dirai un mot peut-être justement des différents rapports, comme le rapport Bokken, le rapport Benisti, ou les expertises de l'INSERM sur le dépistage des troubles de conduite des enfants de moins de 3 ans comme prédictif de l'adolescence. Cet ensemble, si vous voulez, de pièces idéologiques qui visent à surveiller les comportements des populations, pas forcément les réprimer, pas forcément les stigmatiser, mais les surveiller et leur donner des indicateurs pour que, soi-disant, finalement, ils puissent se surveiller eux-mêmes. Donc, c'est comme ça qu'on civilise les mœurs. Hein, c'est pas une civilisation des mœurs par les grandes idéologies politiques ou par la religion ou par les grandes valeurs morales, etc. C'est plutôt une civilisation des mœurs par, on va dire, les sciences, les techniques, par une rationalisation des conduites et des comportements au nom de la science, avec ce risque majeur que le sociologue Pierre Bourdieu avait parfaitement mis en évidence, c'est-à-dire que ça conduit à des abus de pouvoir, comme dit Bourdieu, qui s'autorisent ou se légitiment de la raison. Donc, toute une série de travaux que j'ai pu mener, c'est de ce côté-là. À quelles conditions est-ce que le savoir psychanalytique ou la pratique psychanalytique sont légitimes? C'est-à-dire dans quel cadre? Quelles sont les conditions? Quels sont les concepts majeurs? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les limites aussi de ces méthodes? Et puis, d'autre part, quelle est la façon dont une civilisation, une culture, une société peut utiliser ces concepts pour finalement, à des fins de pouvoir, à des fins de soumission sociale dans une société, encore une fois, qui est prise par l'extension de la norme. Alors peut-être juste donner une citation de Michel Foucault qui me paraît peut-être illustrer un peu ce que j'essaie de dire. La norme est porteuse d'une prétention de pouvoir. La norme, ce n'est pas simplement, ce n'est même pas un principe d'intelligibilité, c'est un élément à partir duquel un certain exercice du pouvoir se trouve fondé et légitimé. Et Foucault dit, concept polémique, dit Canguilhem, peut-être pourrait-on dire politique. En tout cas, la norme porte avec soi à la fois un principe de qualification et un principe de correction. La norme n'a pas pour fonction d'exclure, de rejeter, elle est au contraire toujours liée à une technique positive d'intervention et de transformation, à une sorte de projet normatif. Donc, si vous voulez, c'est très, très important. Et on peut le voir, par exemple, j'avais pensé en dire un mot là maintenant, puisque hier, on a eu justement une conférence de presse avec mes amis de Pas de Zéro de Conduite. Vous savez que Pas de Zéro de Conduite, c'est ce collectif qui s'est constitué à la suite d'une expertise de l'INSERM qui visait à dépister férocement et précocement les enfants de moins de 3 ans, avec une cible d'ailleurs sur les enfants de 2 ans, souffrant d'un trouble des conduites, qui est un diagnostic d'ailleurs davantage lié aux classifications nord-américaines qu'à la pratique des pédopsychiatres européens et français, comme étant prédictif des troubles de la délinquance. Et bien évidemment, cette expertise, en plus, elle n'essayait pas de comprendre le sens de ces symptômes, de ces souffrances ou de ces manifestations. Elle n'essayait pas de les replacer dans le cadre des histoires individuelles ou collectives. Elle considérait que la plupart du temps, il y avait une espèce d'impensé, si vous voulez, causaliste. Elle considérait que ce trouble des conduites était surtout déterminé par des vulnérabilités génétiques et qui étaient activées par des facteurs d'environnement et produisaient des dysfonctionnements neuronaux, c'est-à-dire dans l'ensemble du système nerveux, du cerveau, qui produisait à ce moment-là des troubles du comportement émotionnel et social. C'est-à-dire que vous voyez bien comment là, par exemple, hein, d'abord, on commence à faire une espèce de prévention à partir non pas d'un accompagnement de l'enfant, de sa famille, etc., mais en termes, pourrait-on dire, de repérage de troubles qui seraient prédictifs de ce qui peut se développer ensuite comme pathologie quand même sociale. Et deuxièmement, vous voyez bien comment c'est présupposé, pourrait-on dire, que ces dysfonctionnements sont liés essentiellement à un patrimoine génétique qui ensuite, en fonction de l'environnement, va produire des dysfonctionnements de neuronaux et des dysfonctionnements neurocognitifs pour aller très vite, n'est-ce pas, disculpe la société de la part qui est la sienne dans la fabrique des symptômes. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez non seulement un retour des classes dangereuses, des populations à risque, mais qui plus est, on vous dit que ces populations à risque, ces classes dangereuses, ben c'est finalement leur patrimoine neurogénétique qui les prédisposait à ça. Donc là, vous avez une espèce de naturalisation, pourrait-on dire, des pathologies sociales, vous avez une espèce de biologisation des souffrances psychiques et sociales. Alors, si on prend par exemple donc cet exemple, j'ai pensé justement à dire deux mots, on voit bien comment, par exemple, dans nos sociétés, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, etc., sont appréhendés comme étant, pourrait-on dire, des individus à risque, des individus porteurs de risque qu'il faut dépister, n'est-ce pas, par des dispositifs qui vont les surveiller et les accompagner tout au long de leur vie. Et en particulier, on voit bien avec Pas de Zéro de Conduite, n'est-ce pas, s'il y a eu 200 000 signataires qui ont protesté avec Pas de Zéro de Conduite contre cette expertise INSERM, c'est parce que c'était insupportable de penser qu'on puisse faire peser sur un enfant de moins de 3 ans, 2 ans, c'est la cible privilégiée, 2 ans d'ailleurs, n'est-ce pas, toute la charge finalement, au risque d'ailleurs de produire ce que l'on était censé éviter. Ça a un nom, ça s'appelle les prophéties autoréalisatrices. Donc si vous voulez, on avait même saisi le Comité consultatif national d'éthique, n'est-ce pas, qui avait effectivement considéré qu'il y avait un risque de stigmatisation, un risque, si vous voulez, d'exclusion, ce qu'on appelle un effet Pygmalion, c'est-à-dire que vous avez une certaine image, une certaine représentation, pourrait-on dire, de vous anticiper le comportement de quelqu'un et vous le produisez, vous le fabriquez d'une certaine façon. Voilà. Alors, pour aller très vite, on voit bien là que ça va être pareil, bien sûr, des adolescents, etc. C'est-à-dire que l'autre est appréhendé comme un risque, comme une menace, comme un danger. Et ça, c'est quand même une fabrique du lien social qui est extrêmement dangereux. Et l'autre, bien sûr, ben c'est l'autre, c'est l'étranger, bien sûr, c'est l'immigré, bien sûr, c'est tout ce qui, finalement, ne ressemble pas aux critères de conformité produits par la société. Alors, peut-être j'ai un peu lâché mon propos, mais c'est pas grave, puisqu'on avait été con. Et on a fait ça aussi sous forme de débat. On voit bien, avec, par exemple, l'enfant, comment la prévention aujourd'hui s'inscrit dans une logique extrêmement prédictive et sécuritaire, c'est-à-dire une prévention, finalement, qui met en place des appareils orthopédiques et de contention sociale et psychique, plus que des moyens de permettre des épanouissements singuliers et collectifs. C'est-à-dire qu'on est davantage, vous voyez, dans une façon de corseter, pourrait-on dire, l'enfant, de le contenir, au risque d'ailleurs d'entraver son développement, hein, son potentiel de création. Regardez comment là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'un quadrillage des individus et des populations. Et finalement, c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui, puisqu'on parlait de la psychiatrie, de la psychanalyse, n'est-ce pas, ce qui explique la recomposition, justement, de ces métiers, la recomposition de ces pratiques, où on va préférer des savoirs très instrumentaux, comme les thérapies cognitives ou comportementales, ou des traitements chimiques, etc., plutôt que la manière de soigner, la manière de penser la souffrance, qui était celle que nous avons connue encore il y a quelques années. Alors, il y a vraiment dans tous les domaines de la santé mentale, mais aussi de la santé publique, il y a vraiment la promotion d'un mot que vous allez retrouver à peu près partout, c'est risque, le risque, les facteurs de risque. Il faut dépister les facteurs de risque et il faut les traiter. Et cette manière de concevoir, pourrait-on dire, la souffrance, de la manière de concevoir même la maladie ou le symptôme, n'est pas, pourrait-on dire, sans danger. Elle nous fabrique une fiction anthropologique, une certaine conception de l'humain, n'est-ce pas, placée sous l'emblème de l'individu à risque, n'est-ce pas, dans une société du risque. Et je crois que c'est un point très important qui explique peut-être ces espèces d'affinités électives entre un pouvoir politique très sécuritaire de surveillance, bien évidemment, n'est-ce pas, une extension sociale de la norme, pour vous donner un exemple très précis, dans le manuel de diagnostic américain essentiellement, le DSM-1, vous connaissez, n'est-ce pas, 1952, vous avez une centaine de troubles du comportement. 1994, la quatrième version, vous en avez 400. Le DSM-5 qui se profile en ajoutera encore quelques-uns. Donc on voit bien comment il y a une espèce d'intolérance sociale, n'est-ce pas, à tout ce qui est écart de comportement, anomalie de conduite. Et on va donc considérer l'anomalie comme étant une pathologie. Alors, pour être très concret, et puis pour détendre un peu l'atmosphère, n'est-ce pas, par exemple, le trouble de l'humeur chez certaines femmes avant les règles, ça s'appelle dysphorie prémenstruelle, et c'est classé par le DSM-4. Entre 1979 et 1996, n'est-ce pas, on a 7 fois plus de diagnostics de dépression. Est-ce que ça veut dire qu'on a 7 fois plus de déprimés, ou est-ce que ça veut dire qu'on pose 7 fois plus souvent le diagnostic de dépression, donc en fonction de critères qui vont être de plus en plus bas pour inclure des populations dans le sac des déprimés, avec bien évidemment, corrélativement, vous vous en doutez, tous les enjeux des laboratoires pharmaceutiques et des antidépresseurs. Donc vous voyez, par rapport à ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, la norme, il faut bien voir que la norme, ce n'est pas un fait d'exactitude. La norme, ce n'est pas la loi scientifique. La norme, c'est quelque chose qui inclut des tas d'éléments, des tas de critères. Et par exemple, quand on fait baisser d'un point la norme de la tension artérielle, en 1974, n'est-ce pas, avec l'association allemande de lutte contre l'hypertension, eh bien, et les maladies cardiaques, on multiplie par 3 le nombre de consommateurs potentiels d'hypotenseurs. Donc, en médecine, déjà, on voit bien, sur la question de la densité osseuse, on voit bien déjà la porosité entre le diagnostic et des intérêts commerciaux, industriels et autres qui sont en jeu. Mais vous imaginez, dans le champ de la santé mentale, où là, on n'a même pas le butoir. On ne peut pas descendre la tension artérielle, la faire passer de 15-10 à 14-9, et puis ensuite de à 10-3, ça serait aberrant. Je veux dire, ça ne marche pas. Il y a un butoir. Dans le champ, par contre, de la santé mentale, il n'y a pas ce butoir. Et en 1980, quand on retire, si vous voulez, l'homosexualité de la liste des troubles du comportement sexuel, on guérit des millions de malades. Ce n'est pas un fait d'exactitude. Quand, par exemple, n'est-ce pas, on décide aujourd'hui de considérer la timidité comme étant une maladie, un trouble d'anxiété sociale, eh ben, il est évident qu'on met des millions de malades dans le sac de la pathologie. Donc, je ne sais pas si je suis clair, nous sommes dans une société, n'est-ce pas, où les diagnostics qui disent ça c'est normal, c'est pas normal, ces diagnostics sont extrêmement dépendants de très nombreux critères. Et la grande imposture d'un pouvoir sécuritaire, bien sûr, ça va être de s'appuyer sur le scientisme, qui n'est pas la science. Le scientisme, c'est la religion de la science, c'est pas pareil, n'est-ce pas, de s'appuyer sur le scientisme pour finalement faire comme si la norme n'était pas liée à un accord, à un consensus, à une transaction, mais comme si les normes établies entre le normal et le pathologique donc, étaient, pour être dire, des faits d'exactitude, étaient évidentes, naturelles. Donc, c'est pour ça que vous avez cette alliance, pourrait-on dire, entre à la fois un pouvoir politique qui est fondé sur la normalisation des comportements, également une conception de l'homme qui va biologiser, bien sûr, toutes ces conduites, et puis, bien évidemment, toutes les industries de sécurité, toutes les industries de santé, n'est-ce pas, que ce soit les médicaments, que ce soit l'IRM, que ce soit tous les dispositifs de surveillance possibles et inimaginables. Alors, peut-être juste un mot concernant, si vous voulez, parce que j'ai toujours pas commencé mon topo, concernant, n'est-ce pas, la prévention, par exemple, parce que je crois que c'est très intéressant de le voir au niveau des enfants, eh ben, je vais juste vous donner cette phrase parce qu'elle me paraît très importante. En 1933, le philosophe Walter Benjamin, n'est-ce pas, note, 1933, c'est important comme date pour l'Europe, pour l'Allemagne et pour l'Europe, n'est-ce pas, note que il y a une chose que peut l'adulte, c'est marcher, mais une autre chose qu'il ne peut plus faire, c'est apprendre à marcher. Et à ce moment-là, il fait l'éloge, je dirais, de l'immaturité, pourrait-on dire, n'est-ce pas, de la prématuration de l'espèce que constitue la longue enfance, et il parle du levain de l'inachevé. Donc je ne sais pas si vous sentez cette différence entre une conception très sécuritaire de la prévention qui vise à dépister finalement tout ce qui peut être anormal en le considérant comme anormal, pathologique et dangereux, et cette conception finalement d'une prévention que, à pas dire autrement, par exemple, nous appelons prévenante, c'est-à-dire, n'est-ce pas, accompagner l'enfant dans son apprentissage de la marche et non pas l'enserrer dans des dispositifs qui viennent l'étouffer. C'est un point très important, et on y reviendra sûrement, au moins dans le débat, c'est un point très important. Aujourd'hui, quand on parle de facteurs de risque dans tous les domaines, sociaux, psychologiques, médicaux, économiques, etc., c'est donner de l'humain une vision essentiellement catastrophique où on induit en quelque sorte la pensée selon laquelle vous êtes chacun le lieu d'émergence finalement de troubles multiples, de catastrophes imminentes dont vous n'avez pas idée. Et je crois que c'est très important parce que c'est aussi par ce biais de la sécurité qui est finalement la forme mineure, n'est-ce pas, l'insécurité, la forme mineure du terrorisme, n'est-ce pas, que l'état d'exception, comme disait aussi Walter Benjamin, devient la règle. C'est-à-dire, c'est au nom de la sécurité que on atteint massivement les libertés, parce que finalement, rien ne ressemble plus à un terroriste qu'un homme ordinaire, rien ne ressemble plus à un schizophrène dangereux qu'un homme ordinaire, etc. Et finalement, la mise en scène médiatique, finalement, des faits divers portant sur la schizophrénie, portant sur le terrorisme et autres, cette mise en scène, eh bien, elle vise à laisser entendre que ces mesures de sécurité sont nécessaires et habituer donc les gens à renoncer au droit d'avoir des droits, comme disait Hannah Arendt, c'est-à-dire une forme de liberté. Alors, regardez par exemple la façon dont le député Vénesti, n'est-ce pas, commence son rapport, n'est-ce pas, sur la prévention de la délinquance des jeunes. Il met une citation en exergue qui n'est quand même pas n'importe laquelle. Il cite Saint Jean Bosco, ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. Vous avez là le rapport Benesti qui a été remis il y a quelques semaines, il commence comme ça. C'est-à-dire que vous avez, et c'est la même chose pour le rapport Bocquet, une citation du même ordre qu'il attribue à Socrate, et à mon avis, il n'y a pas de Socrate, mais de Platon, c'est un autre problème. Bon, peu importe. Et vous voyez, il y a, entre guillemets, méfiez-vous les uns des autres. Méfiez-vous les uns des autres. Hein. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui, bien sûr, menace là le lien social, et c'est ce que j'essayais de vous dire aussi un peu tout à l'heure, très rapidement. Comme nous ne sommes pas dans des formes de gouvernement politiquement totalitaire, comme nous ne sommes pas dans des formes de gouvernement ouvertement répressives, tyranniques et autres, eh bien, il faut, entre guillemets, que les gens acceptent de renoncer à leur liberté. Donc, on va rechercher leur soumission sociale librement consentie et leur servitude volontaire. Et comment on va s'y prendre pour ça? Eh bien, c'est la mise en scène, justement, des médias, c'est la mise en scène, n'est-ce pas, qui vise à l'exploitation des faits divers et qui fait apparaître, pourrait-on dire, les projets de loi comme étant quasiment les réponses techniques à des problèmes de la vie quotidienne, alors même que les projets de loi sont déjà dans des cartons depuis longtemps. Là, je n'ai pas le temps de développer, bon, on parlera peut-être dans le débat, mais on l'a bien vu au niveau du projet de loi sur la psychiatrie, n'est-ce pas ? Il va de soi que lorsque on a parlé de cette tragédie qui est le poussin de métro, qui avait poussé un passager, un voyageur contre une rame du RA, n'est-ce pas ? Eh bien, c'était un schizophrène, la mère avait alerté les services psychiatriques qui n'ont pas pris ça au sérieux, ou bien ce schizophrène qui avait tué un étudiant dans la rue de Grenoble. Ce sont des choses tragiques, sauf qu'il faut savoir que les patients psychiatriques sont beaucoup plus eux-mêmes agressés et subissent plus de violences qu'ils n'en produisent, et en tout cas beaucoup moins que l'ensemble de la population générale. Donc c'est la mise en scène qui est là pour finalement, pourquoi ? Pour nous faire accepter, pourrait-on dire, des projets de loi qui n'ont plus le courage de se prononcer au nom d'idéologie, hein, comme ça peut être le cas dans certains systèmes politiques, n'est-ce pas, autoritaires, et qui donc vont dire, nous le faisons parce que c'est une réponse technique, c'est pragmatique, c'est la science qui nous dit qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc c'est là où on est dans ce que j'appelle une objectivité de nuque. On fait comme si on ne prenait pas parti, on fait comme si les décisions n'étaient pas politiques, parce qu'elles viennent se masquer de l'exploitation de chiffres qui sont mis en scène, n'est-ce pas, pour amener les gens à accepter, si vous voulez, leur servitude volontaire. Donc, vous voyez, on va dire, pour faire très très vite, que dans les différents travaux que j'ai pu faire, avec José Delvolgo par exemple, ou avec Pierre Lecoz, qui est philosophe et vice-président du Comité consultatif national d'éthique, on a essayé de montrer, en somme, que les savoirs et les pratiques dans le domaine du soin ou dans le domaine de la prévention notamment, n'est-ce pas, naissent de la niche écologique d'une culture qu'elle participe en retour à recoder. On voit bien, par exemple, comment, au XIXe siècle, la demande sociale à l'égard de la psychiatrie, n'est-ce pas, sa demande sociale, est une demande d'ordre, de progrès, de surveillance, ce qu'on voit ressurgir, d'ailleurs, justement, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, c'est une demande qui est, n'est-ce pas, dites-nous comment le criminel ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis, dit Michel Foucault. Donc on retourne vers cette psychiatrie sécuritaire-là, et donc cette psychiatrie sécuritaire-là, eh ben, elle n'a pas besoin du savoir tragique de la psychanalyse, de savoir le sens et l'histoire d'un symptôme, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça renvoie à des souvenirs refoulés de l'enfance, on s'en fout complètement. Cette psychiatrie-là, elle a besoin d'appareils qui dépistent à l'aide d'échelles assez bêtes, il faut le dire. Hein. Regardez par exemple les items qui permettent le diagnostic de trouble des conduites de l'enfant de 2 ans, hein, voire moins. Hein. C'est froideur affective, cruauté, absence de remords, indice de moralité bas. Pour vous imaginer quel sens ça peut avoir pour un enfant, n'est-ce pas ? Ou dans certaines recherches aussi, vous avez des psychopathologies cognitives, vous avez l'enfant de 9 mois qui rampe pour aller piquer son goûter ou le cube à un autre, il est déjà dans la violence, il est déjà dans l'agressivité. Donc vous voyez, donc ce que j'ai essayé de dire, c'est tout un ensemble de travaux qu'on a pu mener qui essayaient de dire que je ne crois pas, si vous voulez, à l'immaculée conception des savoirs et des pratiques. C'est-à-dire qu'ils sont dans un bain culturel, ils sont dans une civilisation, et que dans certains domaines, comme justement la santé, en particulier la santé mentale, n'est-ce pas, ou la prévention, ce n'est pas la même chose que dans le domaine des sciences exactes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une part, justement, de négociation, de transaction, qui fait que ce qu'on peut avancer comme diagnostic, n'est-ce pas, n'est pas le reflet d'un état de la nature. Alors, la deuxième source de ce travail, et finalement, j'aurais fait que la demi-page, 300 pages que j'avais amenée. La deuxième source de ce travail, que j'évoque à peine ce soir, bien sûr, c'est la poursuite d'un collectif de réflexion et d'action qu'on a lancé avec Stéphane Chédry, qui s'appelle l'appel des appels, et qui pose un diagnostic. Le diagnostic, vous allez voir comment c'est. C'est assez proche du premier axe que j'ai évoqué, c'est le diagnostic selon lequel la colère et le chagrin aujourd'hui des professionnels du soin, de l'information, de la justice, de l'enseignement, du travail social, de la culture, de la recherche, etc., cette colère, n'est-ce pas, elle provient du fait qu'on va décomposer leur métier, leur fonction, non pas pour améliorer le service qu'ils peuvent rendre aux individus, aux populations, mais pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que, je vais préciser un peu les choses, n'est-ce pas, si on transforme aujourd'hui la formation des enseignants, ou si on transforme, n'est-ce pas, le rôle des médecins, ou si on transforme, encore une fois, le travail social, c'est pas parce que c'est lié à des événements scientifiques, vous l'avez compris, qui le justifierait, ou c'est pas pour améliorer, n'est-ce pas, les soins qu'ils peuvent rendre à l'hôpital ou ailleurs, par exemple, c'est pour finalement, au moment où l'État se dessaisit de sa fonction de protection sociale par les services publics, je crois que c'est un point important, n'est-ce pas, c'est finalement amener ces professionnels à repenser leur acte professionnel dans une logique de marché. Pour dire autrement, n'est-ce pas, les réformes aujourd'hui, à la fois, elles, que ce soit la LOLF, la loi organique de finances, que ce soit la réduction de la RGPP, etc., ça, c'est l'aspect matériel des choses. C'est-à-dire, l'État se dessaisit, n'est-ce pas, de ce qui avait constitué quand même une propriété sociale, un patrimoine social acquis tout au long des luttes sociale et nationale, puisque il y a le comité, bien sûr, national de la résistance, mais même avant, on peut dire que tous les droits sociaux ont été acquis au fur et à mesure par des luttes. On ne les a pas donnés comme ça, bien évidemment. Donc ça, c'est l'aspect matériel. C'est-à-dire qu'on va réduire ce qu'on appelle le déficit que cause justement ce patrimoine social des services publics. N'est-ce pas ? Et puis, ça ne suffit pas. Il faut aussi, pour le faire accepter, en quelque sorte, coloniser les têtes, au premier rang desquelles les têtes des serviteurs de cet État, les fonctionnaires. Et donc, on va leur demander d'intégrer une logique de marché. Donc, par exemple, dans l'information, eh bien, c'est plus la qualité des émissions qui va compter, c'est une logique d'audimat. C'est le nombre d'auditeurs que vous avez mobilisé. C'est toute une transformation du rôle de l'information. N'est-ce pas ? Ce n'est plus une formation critique du citoyen, plus ou moins critique d'ailleurs, on a connu l'époque, n'est-ce pas, de l'ORTF, de ce qu'on a appelé la télé du parti, où finalement c'était de la propagande. Mais il y avait ce souci de s'adresser aux citoyens, même pour l'intoxiquer, mais quand même il y avait ce souci. Avec, on va dire, pour aller vite, n'est-ce pas, la fin des années 70, et l'Italie a été le laboratoire expérimental avec Berlusconi de cette transformation, n'est-ce pas ? Eh bien, à ce moment-là, la télé ou les médias ont une autre mission. C'est plus du tout de former les citoyens, c'est plus du tout de l'enseigner, c'est de le distraire, le divertir, le séduire. Et donc, du coup, vous voyez, ce qui se transforme, c'est tout le style de discours de l'information. C'est pas pareil. Vouloir enseigner, vouloir former, vouloir apprendre le caractère civique, n'est-ce pas ? C'est pas la même chose qu'amuser, divertir, plaire. C'est pas les mêmes types d'émissions et c'est pas les mêmes types de discours, pour aller vite. Or ça, ce que je suis en train de vous raconter pour la télé, pour les médias et autres, vous l'avez à peu près partout. Alors, un peu autrement, c'est-à-dire que cette logique de 10 maths, ça ne va pas être le nombre d'auditeurs qui viennent, n'est-ce pas, aux émissions. La logique de 10 maths, ça va être l'évaluation des effets que vous produisez, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, par exemple, on va faire une tarification à l'activité à l'hôpital où ce qui va compter, c'est l'aspect le plus technique des actes, celui qui rapporte le plus, et par conséquent, c'est pas, pourrait-on dire, l'éthique du soin qui va prévaloir, mais c'est ce que ce soin rapporte. Et ça, c'est très important. Alors, je voulais vous dire deux choses, parce que ça, vous le retrouvez partout. L'évaluation, elle est mise en place d'ailleurs aujourd'hui pour ça, pour apprendre aux gens à se soumettre à ce type de normes du travail, ce type de normes des pratiques professionnelles. Voyez. Et là, juste un exemple, c'est que c'est plus la gestion qui est devenue le moyen d'accomplir un acte de soin, c'est le soin qui est devenu un moyen de faire rentrer du fric dans son pôle médico-chirurgical, n'est-ce pas ? Donc c'est le soin qui est devenu le moyen de satisfaire la gestion. Et donc, pour prendre un exemple très simple, pas très loin d'ici d'ailleurs, il y a un directeur d'hôpital qui a écrit à un service de chirurgie pédiatrique en disant, voilà, il est prévu 125 interventions chirurgicales, n'est-ce pas, par mois, vous n'en avez réalisé que 45, il en manque 80. Alors, réponse des médecins, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce qu'ils doivent aller envoyer le personnel écraser les petits à la sortie de l'école, les pousser dans l'escalier, ou attendre les beaux jours qu'ils aillent se brûler au barbecue ? Donc, vous voyez, mais c'est terrifiant parce que, je pourrais vous donner un autre exemple, puisque je n'ai toujours pas commencé à parler de mon bouquin, mais je pourrais vous donner un autre exemple, c'est le cas de ces patientes de l'Oregon, patients cancéreuses qui demandent la prise en charge, n'est-ce pas, de leur chimiothérapie, et il leur a répondu par la compagnie d'assurance de santé, n'est-ce pas, qu'elle cette chimiothérapie est refusée parce qu'elles ont moins de 5% de chances de survie à 5 ans. Mais quand Dieu est plein, sans leur proposer un suicide médicalement assisté. Et une de ces patientes écrit qu'il est terrible de savoir que la société est prête à payer pour vous faire mourir, mais pas pour essayer de vous faire vivre. Donc, on voit là la perversion, l'instrumentalisation, mais entendez bien qu'il ne s'agit pas seulement d'économie matérielle, il s'agit d'amener dans la tête des professionnels à penser, n'est-ce pas, il y a une espèce de violence symbolique, pour aller vite, on parle de Pierre Bourdieu, n'est-ce pas, à penser selon une logique de marché. C'est combien je vais rapporter, combien, voilà. Et ça, vous l'avez pareil, à l'université, eh bien, ça ne va pas être la qualité des travaux de recherche, on ne va pas lire les articles, n'est-ce pas ? On ne va pas lire les bouquins, d'ailleurs les bouquins ça ne compte pas, on va en comptabiliser, n'est-ce pas, l'indice de popularité de la revue, ce qu'on appelle l'impact factor, facteur H, facteur M, etc. Et donc, au taux de citation, et donc partout, vous êtes dans cette espèce de logique d'une évaluation qui est essentiellement formelle, et donc ces professionnels appellent les appels, il se trouve pris dans un conflit de loyauté entre, d'une part, l'attachement aux valeurs qui ont présidé à la construction de leur métier, soigner, juger, éduquer, enseigner, faire de la recherche, et puis ces nouvelles valeurs qu'on leur demande d'incorporer, n'est-ce pas, qui sont les valeurs, encore une fois, de l'économie de marché. Alors, donc, Le bouquin, il est né un peu de ces deux axes-là, hein. D'une part donc mes travaux plus anciens sur les conditions de validité de la psychiatrie, de la psychanalyse, etc. Et puis le deuxième axe, si vous voulez, c'est-à-dire la réaction de, on va dire, allez, pour faire simple, des artisans face à leur conformisation à un processus d'industrialisation des métiers. Parce que finalement, c'est pas par hasard que tous ces métiers qui protestent sont des métiers d'artisans. Et dans l'artisan, il y a une part d'art, il y a une part un peu d'imprévu, de contingence, de rencontre avec quelque chose. Le talent de l'artisan, c'est celui, non pas qui produit comme tout le monde qui fabrique, mais qui a un tour de main pour quand il rencontre une difficulté, l'incorporer dans un acte comme étant quelque chose de créateur et de lui donner un sens. Ben, si vous voulez, c'est ce qui est en train de se produire face à une société de la conformisation, de la normalisation, de l'industrialisation des actes plus techniques. Vous voyez bien qu'en médecine, ça va être les protocoles de soins, la standardisation, etc. Ça va être les évaluations scolaires et autres. Ben, vous voyez bien que finalement, il y a cette espèce de souffrance, pourrait-on dire, de l'artisan qui se trouve devoir finalement s'assujettir à des machines numériques et bureaucratiques. Parce que là aussi, j'aimerais pas avoir le temps d'en parler, bien sûr, une des grandes violences symboliques de cette affaire-là, c'est de faire, pourrait-on dire, n'est-ce pas, du sujet humain, une pièce détachée d'une machine numérique à laquelle il se trouve assujetti et qu'il incorpore finalement. Il se trouve exempté de devoir penser ce qu'il fait en se soumettant simplement aux règles fonctionnelles, n'est-ce pas, des protocoles, aux règles fonctionnelles, encore une fois, des actes. C'est un point qui me paraît donc extrêmement important. Alors, donc, ce travail, je ne vais pas pouvoir vous déplier, bien évidemment, les différentes parties, mais on peut dire qu'il essaie de rendre compte que la manière de soigner, d'informer, de juger, elle révèle les valeurs d'une civilisation, elle révèle la hiérarchie, finalement, de ces valeurs, elle révèle sa substance morale, spirituelle. Et donc, la question, c'est lorsqu'on construit, par exemple, certains savoirs en psychiatrie ou certaines pratiques de soins, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, ces savoirs, en quelque sorte, qu'est-ce qu'elles viennent dire, qu'est-ce qu'elles viennent révéler de la société dans laquelle nous sommes. Pour prendre un exemple très simple, n'est-ce pas, aujourd'hui, la notion de vulnérabilité est péjorative. La notion de vulnérabilité est un risque. Il fut un temps pas très éloigné où la vulnérabilité, c'était se laisser aller au plus vulnérable de soi-même, c'est-à-dire à ce qui conditionne l'amour. Parce que, et donc, vous voyez combien c'est terrifiant à l'heure actuelle, et vous voyez bien là que les diagnostics en psychiatrie ressemblent à s'y méprendre aux valeurs sociales elles-mêmes. On va parler d'addiction, de dépression, d'hypomanie ou de manie, c'est-à-dire donc d'hyperactivité ou d'agitation, etc. Et si on réfléchit un tout petit peu, on s'aperçoit que la manière dont on va capter, façonner, modeler et diagnostiquer justement ces souffrances ressemble aux valeurs sociales qui vont être plus ou moins sanctionnées positivement ou négativement par notre culture. Alors, aujourd'hui, mais je ne vais peut-être pas parler trop longtemps, non ? Aujourd'hui, on est dans une prétention de rendre compte objectivement des relations entre humains. Et je crois que ça, c'est la grande imposture idéologique, n'est-ce pas, de notre société, pour pouvoir manipuler, gouverner à la fois l'opinion et les sujets, pour aller très vite, n'est-ce pas ? On fait croire que c'est objectif. Et dans différents domaines, que ce soit le dépistage prénatal, que ce soit, donc, encore une fois, le dépistage au niveau de la santé mentale. Enfin, je donne plusieurs exemples pour essayer de montrer, n'est-ce pas, que cette prétention de gérer l'humain, comme dit le sociologue Adorno, n'est-ce pas, l'objectivité, la prétendue objectivité dans la relation entre les hommes, qui est soi-disant dépourvue de toute idéologie, dit Adorno, est elle-même devenue l'idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses. Et donc là aussi, vous voyez comment traiter les hommes comme des choses, les hommes et les femmes aussi, vous en doutez, c'est finalement les objectiver, les chosifier, les réifier. Et là, vous voyez aussi le rapport avec le mode de pathologie que l'on rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on va accuser comme étant une espèce d'instrumentalisation de l'autre pour sa jouissance, n'est-ce pas, ou bien une violence qui fait qu'on est insensible à la souffrance de l'autre et autres, comme par hasard, c'est aussi ce type de valeur qui se trouve promu, voyez, aujourd'hui. Donc, pour aller très très vite, n'est-ce pas, j'essaie de je suis un peu dans les sillons, dans ce bouquin. Bon, là, je ne vous ai pas trop parlé de psychanalyse, mais ce n'est pas grave, je suppose, on peut en parler aussi dans le débat. Hein?
Il reste 20 minutes.
C'est un quart d'heure. Bon, vous voulez que je m'arrête maintenant? Non. Bon, alors, peut-être terminer par trois axes de discussion qui structurent le livre. D'abord, à partir de différents exemples, dont les travaux de Jean-Pierre Vernant sur l'émergence de la pensée rationnelle en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, sur un certain nombre de travaux, j'essaie de montrer que la raison est d'abord sociale et que les formes de savoir sont en relation avec les pratiques sociales, avec les formes de pouvoir, pour aller vite. Ce n'est pas n'importe quand qu'on découvre la physiologie de la circulation sanguine, c'est pas n'importe quand. Donc aujourd'hui, par exemple, la manière dont on rationalise les conduites, la manière dont on pense rationnellement le monde, la manière dont on se pense rationnellement soi-même, est extrêmement dépendante du type de relation sociale qu'on a. C'est pour ça que je vous ai dit un peu rapidement tout à l'heure, n'est-ce pas, chaque société a les maladies mentales qu'elle mérite et finalement la psychiatrie qui lui convient. Donc la psychiatrie d'aujourd'hui, elle est peut-être moins liée à des événements scientifiques, on n'a pas trouvé grand-chose, n'est-ce pas, que finalement, on peut dire, à des normes sociales et à des manières de vivre ensemble. Deuxièmement, la santé est aujourd'hui le motif au nom duquel le pouvoir politique administre les mœurs en introduisant la loi dans la gestion des mœurs. Et là, on le voit bien dans le moindre détail, n'est-ce pas ? Il y a véritablement une police judiciaire des mœurs qui s'installe au nom du bien-être, au nom de la santé. C'est-à-dire, c'est quand on a perdu, pourrait-on dire, quand on a perdu la substance démocratique du vivre ensemble, qu'on va chercher du côté des dispositifs normatifs. En même temps, il y a un effacement entre le privé et le public, il y a un effacement entre le normal et le pathologique, etc. C'est-à-dire toujours davantage aujourd'hui, n'est-ce pas, on tend à finalement effacer justement les différences, effacer, n'est-ce pas, tout ce qui jusqu'à maintenant nous permettait de vivre ensemble. Et il y a une phrase qui est absolument terrible d'Anna Arendt qui dit que ce qui est terrible dans les sociétés de masse, ce n'est pas le nombre des individus, c'est la perte du monde qu'ils avaient en commun. Perte du monde qu'ils avaient en commun, qui les lie, qui les relie et qui les sépare aussi en même temps. Et donc, vous voyez, c'est cela qu'on perd. Alors, un exemple parmi d'autres, mais vous voyez bien, si vous prenez les rapports du médiateur de la République, de Levoix, vous vous apercevez que les gens n'ont plus confiance dans les institutions, n'ont plus confiance dans le tissu social. Un Français sur deux pense qu'il peut être SDF, 78% des Français pensent que l'avenir de leurs enfants sera pire que le leur. Vous avez là quelque chose qui est une crise de confiance dans le vivre ensemble, hein, qui est déterminée par des éléments, bien sûr, économiques, financiers, tout ce que vous voulez, mais aussi par des éléments symboliques. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'individu est un peu transformé en micro-entreprise libérale, autogérée et ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances de l'existence. Et donc, c'est un point qui est aussi extrêmement important. Troisièmement, n'est-ce pas, il faut voir que la question de la démocratie, aujourd'hui, est inséparable de la conception de l'égalité. C'est-à-dire, finalement, est-ce que l'égalité, c'est, comme disait Marx, n'est-ce pas, une égalité de grains de sable indéfiniment substituables les uns aux autres ? Ou est-ce que c'est une égalité au sens géométrique du terme, au sens grec du terme, si on est à égale distance du centre de décision politique? C'est pas pareil. Je vais être très concret, n'est-ce pas? Quand, par exemple, au nom de l'égalité aujourd'hui, on déplace un éducateur d'un groupe d'enfants à un autre sans tenir compte des relations qu'il peut avoir avec les enfants, on est dans une égalité de grains de sable où un éducateur vaut un autre éducateur, etc. Il n'y a pas, on ne tient pas compte ni du relationnel, ni du social, etc. Il y a une phrase aussi terrible de Marx là-dessus, qui dit, il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail d'un homme, mais qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure, le temps est tout, l'homme n'est plus rien, il n'est plus que la carcasse du temps, la quantité décide de tout, jour après jour. Vous voyez, Voilà, alors pour faire très vite, vous allez me dire la psychanalyse là-dedans, et après j'arrête, je vous promets, Annie, j'arrête, n'est-ce pas? Eh bien, la psychanalyse là-dedans, elle est justement, la psychanalyse, elle a eu des tas de défauts, hein, surtout les psychanalystes, ils sont trop rentables, on le sait bien, mais ce n'est pas le problème. La psychanalyse, à un moment donné, lorsqu'elle a été découverte à la fin du 19e siècle, n'est-ce pas? Elle a été d'ailleurs découverte malgré Freud, malgré son scientisme, il faut bien le dire, n'est-ce pas? Il travaillait sur la sexualité des anguilles, vous voyez, ce n'était pas tout à fait. Quelqu'un. Et ben, c'était un moment où déjà on avait cette espèce de folie de penser qu'on pouvait administrer techniquement, scientifiquement l'humain au nom de la raison économique, au nom de la raison scientifique. Il y a eu des patientes, les hystériques, pour aller très vite, qui ont mis en panne le fonctionnement du corps, puisque justement leur maladie n'obéissait pas à la loi de l'anatomophysiopathologie, n'est-ce pas? Et elles ont mis en panne des fonctions pour faire entendre d'autres messages. Et je crois que c'est très important parce que finalement, la psychanalyse, c'est ce que je développe dans l'ouvrage dont je ne vous ai pas parlé d'une certaine façon, c'est le retour d'une culture tragique au sein même d'une culture qui est en train de devenir terriblement objective, terriblement économique, terriblement scientiste. Et ça, c'est très important, quand bien même ensuite la psychanalyse a eu, par le vecteur, n'est-ce pas, de sa vulgarisation, par le vecteur aussi de ces transformations d'idéologie par les psychanalystes, eh ben, elle est devenue autre chose que ceux qui finalement avaient produit son invention, sa découverte. Toujours est-il que je crois que, si vous voulez, elle garde quelque chose de l'ordre de la liberté, de l'ordre de la création, de l'ordre de l'imprévu, de l'ordre de la singularité. C'est-à-dire que dans une société de la norme, des protocoles, de la standardisation, de la conformisation, la psychanalyse, c'est peut-être le nom, justement, d'une singularité qui disparaît dans une approche de l'humain, où, comme le disait déjà Adorno, n'est-ce pas, l'individu n'est plus qu'un exemplaire de l'espèce, ce que Michel Foucault appelait un individu réduit à un segment de population.
Alors, juste, ce n'est pas moi qui suis très pressée, c'est M. Gori qui a un autre rendez-vous. Et il y a un taxi qui arrive en 21h, donc il nous reste 9 minutes juste pour poser des questions.
Donc, je suis enseignante, je me connais tout à fait dans ce que vous dites en tant que enseignant, enseignant, par exemple avec les vraies compétences, une espèce d'objectivation du savoir qu'ils ont transmis. Et je voulais savoir, du coup, j'ai l'impression que l'appel des appels, c'est un peu un espoir. Enfin, moi, je connais par des textes que j'ai lus, mais voilà, pas plus que ça. Et j'attends que je connaisse l'existence de l'appel des appels, la possibilité d'une initiative publique dans laquelle pourraient s'investir des tas, par exemple, d'enseignants, je pense, qui ne sont pas forcément assez nombreux en emploi pour être actifs sur tel établissement, infléchir le devenir de telle ou telle grève. Mais qui pourrait peut-être, face aux pratiques qu'on nous demande d'avoir maintenant, avoir comme ça une réaction de refus et de refus de faire. Donc j'attends ce type, enfin, quelque chose dans lequel on pourrait s'inscrire. Et donc, de ça, c'est le rêve de proposition de l'appel des appels dans ce sens-là.
Alors, si vous voulez, l'appel des appels, c'est un collectif. Il y a des comités locaux, il y a des rencontres nationales. Et je dirais que ce qui importe, c'est vous dans l'implication dans tous ces travaux, parce qu'il y a déjà des réunions, on a fait des textes, bien sûr, on a eu des journées nationales à Montreuil, d'ailleurs au 104, etc., dans les régions. Il y a un comité local de l'appel des appels, il faut aller sur le site appeldesappels.org, et vous verrez, il y a la liste des comités locaux, il y a des groupes d'action et de réflexion qui se mettent en place.
Mais par rapport aux livres de texte, moi j'ai l'impression que par rapport à toutes les petites pinailleries qu'il peut y avoir sur est-ce que c'est bien, pas bien, plus ou moins ça, il y aurait besoin vraiment d'un discours très franc et très national
oui.
qui
pour regarder
oui.
Il y a des textes
sur
en attendant là, ça y est, il va être mis en place.
Oui, mais non, mais ça vous avez raison, mais ce qui est absolument terrible, c'est que là, il faut voir que nous allons faire un rouleau compresseur, n'est-ce pas, avec une espèce de frénésie législative. Tous les, tous les jours, il y a de nouveaux textes, et que quelle que soit la mobilisation, regardez la mobilisation du mouvement social, le gouvernement, le pouvoir ne recule pas. C'est d'ailleurs très intéressant de constater, justement, ça je ne vais pas développer, on ne peut pas tout développer, regardez, aujourd'hui, on n'est plus dans la négociation, on n'est plus dans le compromis social. On a changé de civilisation, et même si vous mettez 3 millions de personnes dans la rue, on dira, ils n'ont pas compris, parce que nous ne nous sommes pas bien expliqués. Donc là, vous avez un changement qui est considérable. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, la conception même du mode de gouvernance, pour aller vite, de gouvernementalité des conduites, n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que ce que considère le pouvoir, c'est qu'il a la raison, la rationalité dont je parlais tout à l'heure, et qu'en gros, c'est son service marketing qui n'a pas bien fonctionné. Ils n'ont pas bien vendu le message politique. Voyez, et là, c'est un point qui est extrêmement important, parce qu'on a vraiment changé d'époque et de culture. Par rapport à ce que vous dites, moi je vous dirais simplement que la raison d'être de l'appel des appels, c'est ça, c'est d'extraire une logique transversale à l'ensemble des métiers pour montrer que toutes les pétitions ne sont que les symptômes de cette maladie de civilisation. En particulier, ce que vous dites, pour moi, et ça j'en parle très longuement dans son chapitre du bouquin, qui s'appelle « L'évaluation, une nouvelle manière de donner les ordres ». Et donc, dans tout ce chapitre, j'essaie de montrer que, quel que soit le secteur professionnel, ce que j'appelle la néo-évaluation, parce qu'on a toujours évalué en disant « c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est pas bon », mais la nouvelle évaluation, elle est une façon de s'y prendre pour que les gens soient le nez sur le guidon, à regarder les chiffres, n'est-ce pas, et finalement soient isolés les uns des autres, et c'est les chiffres qui commandent. C'est ce que j'appelais l'objectivité de NUC tout à l'heure. L'administration, c'est les chiffres... Hein? Oui, mais tu sais, c'est une expression de l'historien Johann Dreisen, que j'aime beaucoup, qui considère que dans l'histoire, n'est-ce pas, l'historien prend parti, et que ceux qui prétendent objectivement rendre compte, justement, des événements, sans reconnaître que, si vous voulez, il n'y a pas un reflet des événements dans un miroir du savoir, dans un miroir des médias, merci. Et n'est-ce pas, on les fabrique, on a bien vu par exemple au moment de la guerre du Golfe que les médias n'ont pas rendu compte simplement de ce qui se passait sur le terrain, ils ont aussi ils étaient dans la guerre, pourrait-on dire, avec leur méthode, leur instrument, n'est-ce pas, donc c'est par rapport à ça. Alors juste pour essayer de répondre à votre question, moi je crois que c'est l'évaluation, c'est notre cible, ça doit être ça. On ne peut pas continuer à accepter une évaluation qui n'est pas une façon de reconnaître la valeur de ce qu'on fait, mais qui est plutôt une façon de constituer une pression normative qui nous oblige à nous soumettre, encore une fois, à de nouvelles règles.
Bien, c'est une très bonne conclusion. Merci, Monsieur Gory.
Merci à vous.